Au mois de janvier 1702, Monsieur de Lambertis nous vint voir et nous dit que la chaîne partirait le lendemain, qu'il pourrait encore nous exempter de la suivre, mais qu'il avait à nous avertir, afin que nous eussions le choix de partir ou de rester, que ce serait la dernière chaîne qui irait sur les galères de Dunkerque, que par la suite, toutes les autres iraient à Marseille, voyage de plus de 300 lieues, qui serait d'autant plus rude et pénible pour nous que nous serions obligés de le faire à pied et la chaîne au cou. Que d'ailleurs, il faudrait qu'il allât en campagne au mois de mars, et qu'il ne serait plus à portée de nous rendre service à Lille. Qu'il nous conseillait donc de partir par la chaîne qui commençait le lendemain sa route pour Dunkerque. Que cette chaîne était sous ses ordres jusqu'à cette ville, et qu'il nous y ferait conduire avec distinction les autres galériens, en chariot et commodément pendant la route qui n'était que d'environ 12 lieues. Ces raisons plausibles de M. de Lambertis nous firent accepter ce dernier parti. Ce seigneur nous tint parole, car au lieu de nous faire attacher avec 25 ou 30 galériens, dont la chaîne était composée et qui marchaient à pied, il nous fit mettre en chariot. Et tous les soirs, on nous faisait coucher dans un bon lit, et l'exemple des archers qui conduisaient la chaîne nous faisait manger à sa table. Si bien qu'à Ypres, Furnes et autres lieux où nous passions, on croyait que nous étions des gens de grande considération. Mais hélas, ce bien-être n'était qu'une fumée qui disparut bientôt. Car le troisième jour de notre départ de Lille, nous arrivâmes à Dunkerque, où on nous mit tous sur la galère L'Heureuse, commandée par le commandeur de la pailleterie, qui était chef d'escadre des six galères qui étaient dans ce port. On nous mit d'abord chacun dans un banc à part, par là je fus séparé de mon cher camarade. Le jour même de notre arrivée, on donna la bastonnade à un malheureux forçat pour je ne sais quoi qu'il avait commis. Je fus effrayé de voir exercer ce supplice qui se fit sans aucune forme de procès et sur le champ. Le lendemain, je fus sur le point de recevoir le même traitement qui m'avait fait tant d'horreur la veille, et cela par la méchanceté d'un grand coquin de forçat qui était aux galères pour vol. Ce misérable vint dans le banc où j'étais enchaîné avec six autres, et en m'injuriant de toute manière, me demanda de quoi boire à ma bienvenue. Je n'avais par bonheur rien répondu à toutes les injures qu'il m'avait dites, mais à sa demande, je lui répondis que je ne donnais de bienvenue qu'à ceux qui ne me la demandaient pas. En effet, j'avais payé 5 ou 6 bouteilles de vin à ceux de mon banc qui ne me l'avaient pas demandé. Ce malheureux, qui se nommait Poulet, s'en fut dire au sous-comite de la galère que j'avais prononcé des blasphèmes exécrables contre la Vierge et tous les saints du paradis. Ce sous-comite, qui était un barbare brutal comme sont tous ceux de sa sorte, ajouta foi au rapport de Poulet, et s'en vint à mon banc me dire de commencer à me dépouiller pour recevoir la bastonnade. On peut juger de mon émotion. Je ne savais pas que Poulet lui parlait. D'ailleurs, je n'avais rien dit ni fait qui me pût attirer ce jugement. Je demandai à mes compagnons de banc pourquoi on me voulait ainsi traiter, et si c'était la coutume de faire passer les nouveaux venus par cette épreuve. Eux, aussi surpris que moi, me dirent qu'ils n'y comprenaient rien. Cependant, le sous-comite s'en alla sur le quai pour faire son rapport au major des galères qui y était, et en la présence duquel cette exécution de la bastonnade se fait toujours. Comme donc, ce sous-comite était sur la planche de la galère qui aboutit au quai, il y rencontra le premier comite à qui il dit qu'il allait parler au major pour faire donner la bastonnade à un nouveau venu, qui était huguenot, et qui avait vomi des blasphèmes horribles contre l'Église catholique, la Sainte Vierge et tous les saints. Le comite lui demanda s'il l'avait entendu. Il dit que non, mais que c'était sur le rapport de Poulet. « Bon témoignage, » répondit le comite. Ce premier comite était passablement honnête homme et fort grave pour un homme de sa profession. Il s'approcha de mon banc et me demanda quelle raison j'avais eue de blasphémer ainsi contre la religion catholique. Je lui répondis que je ne l'avais jamais fait et que ma religion même le défendait. Là-dessus, il fit appeler Poulet, auquel il demanda ce que j'avais fait et dit. Ce maraud eut l'impudence de répéter la même chose qu'il avait dite au sous-comite qui était présent, et que le premier comite avait fait rentrer avec lui. Celui-ci, ne voulant pas s'en rapporter à la déposition de Poulet, interrogea les 6 galériens de mon banc, ensuite ceux du banc au-dessus et celui au-dessous. Ces 18 ou 20 personnes lui déposèrent toute la même chose, que je n'avais proféré aucune parole ni en bien ni en mal lorsque Poulet me disait les plus grosses injures, et que tout ce que j'avais dit était que je ne donnais pas la bienvenue à ceux qui me la demandaient. Ces informations faites, le premier comite haussa d'importance le scélérat de Poulet, et le fit mettre à double chaîne au banc criminel, et il tança fortement son sous-comite d'avoir été si prompt à décider sur le rapport de ce coquin. Je fus donc quitte pour la peur de la bastonnade qui est un supplice affreux. Voici comment on pratique cette barbare exécution. On fait dépouiller tout nu de la ceinture en haut le malheureux qui doit la recevoir. On lui fait mettre le ventre sur le coursier de la galère, ses jambes pendantes dans son banc et ses bras dans le banc à l'opposite. On lui fait tenir les jambes par 2 forçats et les 2 bras par 2 autres, et le dos en haut, tout à découvert et sans chemise. et le comité derrière lui qui frappe avec une corde un robuste turc pour l'animer à frapper de toutes ses forces avec une grosse corde sur le dos du pauvre patient. Ce turc est aussi tout nu et sans chemise. Et comme il sait qu'il n'y aurait pas de ménagement pour lui s'il épargnait le moins du monde, le pauvre misérable que l'on châtie avec tant de cruauté, il applique ses coups de toutes ses forces. De sorte que chaque coup de corde qu'il donne fait une contusion élevée d'un pouce. Rarement ceux qui sont condamnés à souffrir un pareil supplice en peuvent-ils supporter 10 à 12 coups sans perdre la parole et le mouvement. Cela n'empêche pas que l'on ne continue à frapper sur ce pauvre corps sans qu'il crie ni qu'il remue, jusqu'au nombre de coups auxquels il est condamné par le major. 20 ou 30 coups n'est que pour les peccadilles. Mais j'ai vu qu'on en donnait 50 ou 80, et même 100, mais cela n'en revient guère. Après donc que ce pauvre patient a reçu les coups ordonnés, le barbier ou frateur de la galère vient lui frotter le dos tout déchiré avec du fort vinaigre et du sel pour faire reprendre la sensibilité à ce pauvre corps et pour empêcher que la gangrène ne s'y mette. Voilà ce que c'est que cette cruelle bastonnade des galères. Je fus environ 15 jours sur la galère où l'on m'avait d'abord mis. Il faut savoir qu'ainsi que tous les hommes ne sont pas également bons ou également mauvais, il y a des comiques qui sont plus méchants et plus cruels les uns que les autres. À côté de la galère où j'étais, il y en avait une dont le comique était pire qu'un démon d'enfer. Il faisait faire la bourrasque ou nettoiement de sa galère tous les jours, au lieu que les autres ne la faisaient que tous les samedis. Les coups de corde pendant cette bourrasque tombent sur les galériens comme la grêle, et cet exercice dure 2 ou 3 heures. Je voyais ce cruel traitement parce que la distance de l'une à l'autre galère n'était pas grande. Les forçats de mon bord me disaient sans cesse « Priez Dieu qu'au partage qu'on doit bientôt faire de vous autres nouveaux venus sur les 6 galères, ou ne tombiez pas sur la galère de la Palme. » C'était celle de ce méchant comite. J'en tremblais de peur. Le partage d'environ 60 nouveaux venus que nous étions pour les distribuer sur les 10 galères arriva. On nous mena tous au parc de l'Arsenal, où on nous fit dépouiller absolument tout nus pour nous visiter dans toutes les parties de nos corps. On nous tâtait partout, ni plus ni moins qu'un bœuf gras qu'on achète au marché. Cette visite achevée, on fit les classes des plus forts aux plus faibles. On fit ensuite 6 lots, aussi égaux qu'il se put, et les commis tirèrent au sort pour avoir chacun son lot. On m'avait mis à la première classe et j'étais à la tête d'un lot. Le comite à qui j'étais échu nous dit de le suivre pour nous amener à sa galère. Curieux de savoir mon sort et ne sachant pas que cet homme fût un comite, je le priai de me dire sur quelle galère j'étais échu. « Sur la Palme, me dit-il. » Je fis une exclamation déplorant mon malheur. « Pourquoi, me dit-il, êtes-vous plus malheureux que les autres ?»« C'est, lui dis-je, monsieur, que je tombe dans un enfer de galère et dont le comite est pire qu'un démon. » Je ne savais pas que je parlais à ce même comite. Il me regarda en fronçant les sourcils. « Si je connaissais, dit-il, ceux qui vous ont dit cela, et que je les eus sans mon pouvoir, je les en ferais bien repentir. » Je vis bien que j'avais trop parlé, mais le mal était fait et sans remède. Cependant, ce méchant comite voulut faire voir à mon égard qu'il n'était pas si démon qu'on l'accusait. Il mena son lot à sa galère, au étang, il commença à me faire voir un trait de sa bénignité pour moi. Car, comme j'étais jeune et vigoureux, l'argousin me mit à la jambe un anneau de fer et une chaîne d'une grosseur et pesanteur extraordinaire. Le comite s'en aperçut, et d'un air rude et brutal, il dit à cet argousin que s'il ne m'ôtait pas cette énorme chaîne, il s'en plaindrait au capitaine et qu'il ne souffrirait pas, qu'il gâta ainsi le meilleur sujet de son lot pour la rame. L'argousin m'ôta sur le champ cette grosse chaîne et m'en mit une des plus légères qu'il eut, que le comite choisit lui-même. Il ordonna ensuite à l'argousin de m'aller enchaîner à son banc de lui comite. Il faut savoir que le comite mange et couche à un banc de la galère, sur une table qu'on dresse sur 4 petits piliers de fer avec des traverses. Et cette table est assez longue pour y prendre ses repas et pour servir à dresser son lit, entouré d'un pavillon de grosses toiles de coton, si bien que les forçats du diban sont sous cette table qui sautent facilement lorsqu'il faut ramer ou faire quelque autre manœuvre. Les 6 forçats de ce banc forment le domestique du comite. Chacun a son emploi pour le servir, et lorsque le comite mange ou est assis sur sa table, car c'est son appartement et sa résidence, tous les forçats du diban et des bancs de chaque côté se tiennent toujours debout, la tête nue par respect. Tous les forçats de la galère ambitionnent extrêmement d'être au banc du comite et sous-comite, non seulement parce qu'ils mangent les restes de leur table, mais principalement à cause de qu'ils ne s'y donnent jamais aucun coup de corde pendant qu'on rame ou fait d'autres manœuvres, et on nomme ces bancs les bancs respectés, et c'est un office que d'être d'un tel banc. J'eus donc cet office qui ne dura pas longtemps par ma propre faute, parce que, me sentant encore d'un reste de vanité mondaine, je ne pus gagner sur moi de faire le pied de grue comme les autres. Car lorsque le comite était à sa table, je me couchais ou lui tournais le dos pour mon bonnet sur la tête, faisant semblant de regarder à la mer. Les forçats du banc me disaient souvent qu'ils m'en prendraient mal, mais je les laissais dire, et allais toujours mon train, me contentant d'être l'esclave du roi, sans être encore celui du comite. Je courais cependant risque de tomber dans sa disgrâce, ce qui est le plus grand malheur qu'un forçat puisse avoir. Il ne m'arriva pas cependant ainsi, car ce comite, tout diable qu'on me l'avait fait, était très raisonnable. Il s'informa des forçats de son banc si je mangeais avec eux les restes de sa table, et ayant appris que je n'en avais jamais voulu goûter, il a, dit-il, encore les poulets dans le ventre, laissez-le faire. Un soir, après qu'il se fut couché dans son pavillon, il me fit appeler auprès de son lit, et, me parlant doucement pour que les autres ne l'entendissent pas, il me dit qu'il voyait bien que je n'avais pas été élevé dans la crapule et que je ne pouvais m'assujettir à ramper comme les autres, qu'il ne m'en estimait pas moins, mais que pour l'exemple, il me ferait mettre dans un autre banc, et que je pouvais compter que dans le travail et la fatigue de la galère, je ne recevrais jamais un coup de lui ni de ses sous-comites. Je le remerciai de sa bonté de mon mieux, et je puis dire qu'il tint sa parole, ce qui est beaucoup, car lorsque nous naviguions ou dans d'autres manœuvres, il n'aurait pas connu son propre père et l'aurait rossé comme un autre. En un mot, c'était le plus cruel homme dans sa fonction que j'ai jamais vu, mais en même temps, et hors de là, très raisonnable, et qui pensait toujours fort judicieusement. Nous étions 5 réformés sur sa galère qu'il considérait tous également, et aucun des 5 n'a jamais reçu le moindre mauvais traitement de sa part. Au contraire, lorsque l'occasion s'en présentait, il nous rendait service. Je l'ai expérimenté, comme je le dirai dans son temps. En attendant, je dois rapporter un exemple qui arriva à l'égard d'un de nos frères réformés l'été de ma première année de galère. Le voici.